Il y a ces lieux, isolés du reste de la société. Ces autres lieux. Hôpital psychiatrique, couvent, EHPAD. Celles et ceux qui y vivent développent leur monde intérieur. Parfois tourmentés et torturés, parfois apaisés et accomplis. Se produit alors un exil intérieur. Il n'implique pas nécessairement un itinéraire de l'ici à l'ailleurs. C'est un exil en soi, une distance par rapport à la réalité et même parfois une fuite dans l'imaginaire. Voici donc 5 histoires, 5 récits intimes, 5 exils intérieurs. État des autres lieux, un podcast produit par les étudiants et étudiantes en journalisme de l'IUT de Lannion. Épisode 4.
L'exil intérieur, c'est déjà de savoir d'où on part et puis de se mettre en route, d'accepter de ne pas savoir.
Angelina, l'exil auprès de Dieu.
Avec l'habitude de la prière, où on peut descendre dans un silence profond. Ça peut être angoissant aussi, parce qu'on ne sait pas où on est, on se perd un peu, quoi. Mais ça, ça fait aussi partie d'un exil, d'une descente, d'une expérience profonde en soi, de silence, où finalement on se rend compte que c'est infini, que là on n'a besoin de rien.
Un épisode présenté par Sophie Larré. Abbaye La Joie Notre-Dame, Campénéac, Morbihan. Midi, l'heure du troisième office de la journée. Angelina a 52 ans. Elle vit ici, dans cette abbaye de pierre, depuis 22 ans.
Je suis partie à pied au long cours avec une amie. On a marché longtemps, on a marché 18 mois, puis je suis arrivée ici. Et donc du coup, voilà, l'histoire, ça a commencé comme ça. J'étais baptisée, c'est tout. Mais après, donc voilà, j'ai fait une belle expérience spirituelle ici. J'ai rencontré des sœurs, j'ai posé beaucoup de questions. J'étais en quête, après relecture. Hein. J'étais en recherche, en quête, et c'était tellement intriguant que je suis rentrée et... Ben, comme toutes les expériences, hein, je voulais savoir de quoi il s'agissait. Et puis, je me suis complètement investie, quoi.
La vie des cisterciennes est exigeante. Pour Angelina, l'exil intérieur naît de la contrainte. Une institution totale est un lieu de résidence et de travail. Erving Goffman, sociologue, dans son livre « Asile, étude sur la condition sociale des malades mentaux ». Un grand nombre d'individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées.
Au départ, on montre un peu les yeux fermés. Hein. C'est quoi cette dimension de désert? C'est quoi cette dimension de solitude? On découvre progressivement, quoi. Et du coup, ça fait quand même des déchirements, quand même, ouais. J'ai eu des colères noires, hein, au début. C'était violent. J'étais très violente au début. Hein. J'ai pris conscience de ma violence au début quand je suis arrivée. Je pensais pas que j'étais violente. Hein. Ça m'a donné froid dans le dos. Je me disais, j'avais jamais. Je pensais que j'étais cool, quoi, mais j'étais pas très cool, hein, comme fille. Hein. Puis après, j'ai fait un chemin j'étais pacifiée, quoi, par le rythme de la vie monastique, par la parole de Dieu, et du coup, tout s'est mis en place d'une manière en toute simplicité, quoi. Arrachements, c'est des coupures qui sont nécessaires, je pense, ça, pour aller à l'essentiel de ce qu'on veut vivre, hein, parce qu'on ne peut pas en même temps être avec des amis, avec sa famille, et puis en même temps chercher une vie seule, parce que ça, on est comme au désert, quoi. Il y a une espèce de désertification intérieure qui doit s'opérer pour faire le choix. On quitte le père, la mère, les frères, les sœurs, et voilà. Et du coup, ouais, ça fait quand même une des choix, des dépouillements, des renoncements qui sont pas si simples. Hein. On peut bien le dire comme ça, mais c'est vraiment, ça travaille à l'intérieur parce que ça veut dire qu'on prend conscience que c'est terminé. C'est terminé, quoi. On renonce à quelque chose qui nous tient à cœur, forcément, ben, ça s'ouvre ailleurs, quoi. Et ça s'ouvre là, ça s'ouvre dans une dimension spirituelle. Et du coup, c'est ça qui a fait que ça, même si on perd, entre guillemets, on perd personne, mais même si on renonce à des liens forts, à des valeurs qui sont belles et profondes et sûres et agréables et tout ça.
Il faut 7 ans pour devenir sœur. Au cours de ce parcours spirituel, Angelina a mûri son choix.
On vit en solitude, la définition du moine, monos, hein, solitude, seul. Mais on est seul, mais avec la communauté. Donc on est seul avec les autres. Et si on n'est pas capable d'assumer notre solitude, on a du mal à vivre avec les autres. C'est étonnant comme phénomène. Hein. C'est toujours la même chose tous les jours. Donc on commence le premier office de vigile la nuit, à 4h30. Après, on a un temps de lectio et d'oraison, l'aude à 7 heures. Puis on a encore un temps de lectio et puis après, c'est la messe. Après la messe, on va au travail. Après, on revient, on a un office avant le déjeuner. On a un office à 12h15 et le repas à 12h30. Puis on a un temps de repos, temps de sieste ou de promenade, comme on veut. C'est un temps de détente. Et puis on reprend donc le non à 14h30. Suivant, ce soir, ça sera vêpres, 6h moins le quart. Après, c'est le temps d'oraison et repas et le dernier office de compli. Et donc, du coup, à 8h, on est au lit. Dans les emplois, ça nous arrive d'avoir une parole fonctionnelle où on peut dire ce qui se passe ou si on a besoin. Mais en général, on essaie de garder le climat de silence. Dans le cloître, c'est silencieux, on ne parle pas. La garde du silence, ça permet de méditer sur la parole, parce que si on était constamment dans le bruit, autant en sortir, quoi. Mais comme on n'est pas dans le bruit, on est dans le silence, et bien ça nous permet de nous recueillir plus profondément. Et c'est une chance de pouvoir rester en silence dans la journée. Et puis après, il y a le grand silence de la nuit. Donc on a vraiment des grandes plages de silence.
Voyage au centre d'un cerveau d'autiste, de Babouyek, aux éditions Rivage. Voyager dans l'infinie dimension d'un ailleurs inconnu jette l'homme dans sa mémoire de déraciné. En équilibre suspendu, ombre et silhouette se cherchent dans cette déportation de leur identité, loin des repères appris, enregistrés. Le défilé incessant des secondes, d'une minute à l'autre, déchaîne les mouvements d'appartenance. Sortir de cette oblique enchaînant l'être dans le polygone de sustentation berce sa perception. Il rêve de celui qu'il pourrait devenir dans cette géométrie sans frontières. En route pour nulle part, falsifié d'identité, libre de disparaître, les expatriés mentaux sillonnent la ligne de démarcation entre le réel, l'imaginaire, l'obscurité, la lumière. C'est tout feu éteint que, sans cri égard, l'esprit se faufile dans les limbes, assoiffé de visiter le paradis dont il ne connaît pas l'adresse.
C'est drôle parce que c'est un exil intérieur, mais on a besoin des autres pour se découvrir. On a besoin des autres pour avancer, justement, à cet exil-là. Évidemment, seul, on peut faire des progrès, mais les autres nous provoquent aussi à creuser davantage, à aller un peu plus loin. Ils nous renvoient à quelque chose de nous-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec les autres, on fait des pas de géant, même si c'est quelquefois douloureux. C'est l'entourage qui va faire qu'on peut progresser. Parce que l'autre, il provoque notre amour. Il y a une provocation, forcément, quand on est à 2 ou 3 ou 19. Hein. Il y a une provocation. Donc on est bien délogé quand on est en vie, en communauté. Ouais. Dans l'épreuve, on ne peut pas dire « je prends la voiture, je vais manger une pizza, puis je vais au cinéma », c'est pas possible. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas fuir l'épreuve, on est obligé de l'affronter. Et puis la sœur, elle est là tout le temps, quoi. Donc on est, y a pas de possibilité d'évitement, quoi. Et du coup, bah, on est amené à lutter, quoi, à être dans une épreuve intérieure, une lutte intérieure pour être pacifié.
Son exil intérieur est un exil auprès de Dieu. Dans ce couvent où elle traverse des épreuves, le silence lui permet d'accéder à la liberté.
On vit librement notre vie de solitude. Et du coup, bah, ça, c'est beaucoup plus fluide avec les sœurs qui sont libres aussi, qui ne sont pas forcément dans une attente tout le temps agressive d'avoir besoin d'être aimée, reconnue et adulée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça veut dire que la solitude, elle dégage le fait que ben voilà, dans la solitude, on est libre. On est beaucoup plus libre de vivre dans une paix intérieure, dans un silence. Du coup, ça génère de la paix aussi avec les autres. Et du coup, ça, la solitude, quand on vit la solitude en communauté, on peut vivre beaucoup plus sereinement ensemble, quoi. Il n'y a personne qui peut le vivre à notre place. Ça, c'est des expériences uniques. C'est ça qui nous donne aussi la liberté. La liberté, elle est grande parce qu'on peut aller là où personne ne peut aller, où personne ne peut mettre ses pieds. Même pas nous, hein, des fois. C'est pas que nous, on est dehors, mais à l'intérieur, il y a quelque chose de ténu, presque imperceptible. C'est comme un fil, quoi. C'est plus qu'une atmosphère, c'est la présence de Dieu en nous.
État des autres lieux, un podcast produit par les étudiants et étudiantes en journalisme de l'IUT de Lannion. Réalisation, Cyprien Michel et Sophie Larré. Voix, Élodie Guézou. Remerciements à la poétesse Babouyek et à l'abbaye de Campénéac.